Chers auditeurs, bonjour. Dans le cadre du Forum Libération et en marge d'une conférence intitulée « Bioéthique, jusqu'où ira-t-on ?», où sont intervenus le généticien Axel Kahn et Mgr Philippe Barbarin, Transistor reçoit pour vous ce dernier.
Chers auditeurs, bonjour. Alors, Mgr Barbarin, je rappelle en quelques mots qui vous êtes. Vous êtes une grande figure de l'Église catholique en France. Vous êtes archevêque de Lyon, primat des Gaules depuis 2002 et cardinal depuis 2003. Vous vous êtes particulièrement intéressé à la transmission de la foi et de la Bible, au dialogue entre les différentes religions et, comme nous avons pu le voir aujourd'hui, à la bioéthique. Vous sortez tout juste d'une conférence à deux voix avec le généticien Axel Kahn. Qu'en avez-vous retiré personnellement ?
En fait, j'ai déjà plusieurs fois discuté avec lui, donc comme il l'a dit, à un moment ou à un autre, on finit par se connaître. Et surtout, j'ai lu ses livres. Et si vous voulez, il y a beaucoup de santé dans ses propos. Il y a beaucoup de choses qu'il dit qui sont d'une très grande clarté, quoi. Par exemple, ce n'est pas quelqu'un qui va hésiter sur des vérités de base que parfois on voit mises en cause, à savoir que notre histoire a commencé dès la fécondation dans le sein de notre maman et qu'ensuite nous avons grandi et c'était déjà notre histoire qui était commencée. Il dit, ça c'est irréfutable. Et pas mal d'autres petites choses que j'en ai cité une ou deux qui sont dans ses livres et que je trouve belles. Par ailleurs, il y a des points sur lesquels nous sommes en désaccord, clair. Ce n'est pas un désaccord qui se cache. Donc on a le droit de ne pas être d'accord, et voici les raisons. Donc quand je dis, excusez-moi, mais là, quand vous dites ça, c'est une faute de logique, parce que vous avez dit ça d'un côté, après ça de l'autre. Et puis après, de l'autre côté, il dit, moi je trouve que l'Église catholique, dans ce qu'elle dit là, ce n'est pas admissible. Il a le droit, il le dit, et on s'explique sur ce sujet. Et donc on montre les contradictions qu'il peut y avoir dans telle ou telle attitude. Donc je trouve que c'est un dialogue qui est assez franc, voilà. Et où on essaie de ne pas mentir. On dit, mais il faudrait aussi rajouter ceci, où il y a telle autre difficulté. On les pointe, on les dit, on les exprime. Et on n'a pas peur de ne pas être d'accord devant les gens, quoi.
Par exemple, sur la recherche embryonnaire, sur l'euthanasie ?
Oui, vous voyez, sur l'euthanasie, on est quand même très largement en accord.
Oui.
Ils refusent absolument le droit de faire mourir dans le code civil. Et si jamais il y a une loi qui donne aux Français le droit de faire mourir les autres, eh ben, c'est fini, quoi. Il y a un seul cas qui est permis, c'est la guerre. Et j'aimerais bien qu'on l'enlève. On aimerait tous qu'il n'y ait pas de guerre, évidemment. Enfin, on est quand même heureux qu'il n'y ait plus la peine de mort. Et donc, si on réintroduit le droit de faire mourir autrui sous prétexte que ceci ou que cela, ce qu'il a dit à propos du jeune qui a des idées suicidaires et tout, c'était superbe. Oui. Et même d'une personne extrêmement âgée. C'était en fait très respectueux du cheminement de cette personne pour qu'elle puisse partir, comme il a dit, sa belle mort, si une mort peut être belle. Alors, en revanche, sur les embryons, il voit bien les contradictions qui se présentent. Je dis, conséquence, arrêtez d'en faire. Alors il dit, on ne peut pas. Je dis, pourquoi on ne peut pas? C'est-à-dire, travailler du point de vue médical à augmenter la fécondation, à combattre l'infertilité, etc. d'un couple, ça évidemment je suis tout à fait pour. Donc je ne vais pas être contre la procréation médicalement assistée. Sauf que procréation médicalement assistée, ça ne veut pas forcément dire fabriquer des embryons. À partir du moment où on commence à fabriquer des embryons, on perd la tête. Et alors il dit, ces embryons, on va pouvoir les utiliser. Je dis, excusez-moi, mais vous voulez dire, on va d'abord pouvoir les tuer, quoi. Il faut quand même dire la vérité. Et il ne se cache pas. Et il dit, mais je préfère encore ça, au moins. Mais il n'a pas menti. Ouais. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'assez important. C'est pourquoi j'ai bien discuté avec lui. Il est sans concession, hein.
Il
a raison, après tout. Il dit ce qu'il pense, mais je n'ai pas peur de dire ce que je pense devant lui. Et en fait, je vois ce qui n'est pas le cas, vous savez, dans tous les dialogues, que mutuellement, nous écoutons. Et je sais ce qu'il va dire et quel va être son argument. Et je sais que cet argument-là me touche beaucoup. Par exemple, il m'a rajouté un très intéressant sur la prolongation de la vie. Et en disant que c'était dû au déséquilibre économique international, qui est un argument nouveau pour moi, que je trouve bon. Et donc, ça fait partie des choses que j'ai apprises aujourd'hui. Il y a des choses que je sais de lui parce que j'ai les élus, parce que je l'ai entendu dans d'autres conférences ou parce que nous avons dialogué. Et à chaque débat, j'ai l'impression d'apprendre des trucs nouveaux. Et comme vous savez, on est toujours content quand on a appris quelque chose.
Vous dites que vous n'avez pas peur de dire ce que vous pensez. De manière plus générale, on constate que l'Église et les catholiques prennent de plus en plus ouvertement position sur les questions de société, notamment dans les grands débats qui traversent la société actuellement, comme les crises, qu'elles soient économiques, écologiques ou encore politiques. Pensez-vous alors que les catholiques sont dans leur rôle, ou pensez-vous au contraire qu'ils enfreignent là le principe de laïcité à la française ?
Mais la laïcité, c'est une loi du 9 décembre 1905, et tout le monde sait, qu'on soit musulman, ou juif, ou chrétien, ou rien du tout, ou athée, etc. On est citoyen de la République française. La France est une démocratie. Par conséquent, un citoyen de la République française, il a le droit de dire ses convictions. Bon, il ne lui est pas interdit d'avoir ses convictions parce qu'il est juif, ou parce qu'il est marxiste, ou parce qu'il est athée, ou parce qu'il est catholique. Ses opinions seront respectées. La République, gentiment, s'est engagée à protéger, à garantir la liberté d'exercice des cultes, tout en disant je ne financerai jamais. Donc la loi de la laïcité est une loi qui dit si jamais il y avait des gens qui faisaient du grabuge contre les juifs, contre les catholiques, ou qui empêcheraient la célébration d'une messe dans la cathédrale, la force doit venir pour permettre que le culte soit célébré. Donc c'est un véritable respect. Alors il est évident que ceux qui sont et catholiques et juifs et communistes et ceci et cela, ils ont évidemment le droit de dire leur opinion. Et quand quelqu'un à l'Assemblée nationale dit eh ben, moi je suis convaincu que, ou je pense absolument que, et je me bats absolument pour ça, on sait qui il est. Et il ne va pas dire moi je suis juif donc je pense que, etc. En fait, on le sait, ou quand il est communiste, ça se voit parce que du coup il est sur le côté gauche de l'Assemblée. Bon, mais on voit pourquoi les gens parlent et ils ont le droit de le faire parce qu'on a, dans la République française, on a le droit d'être ce qu'on est. On n'a pas toujours eu. Mais parfois, il y a eu des périodes de persécution, il y a eu des moments où, quand on est chrétien, on se faisait couper la tête. Heureusement, ce n'est pas le cas. Et donc, on a le droit de dire qu'on est chrétien, comme on a le droit de ne pas le dire, parce que précisément, la République respecte tous les cultes.
Moi, j'aurais déjà voulu savoir, parce que bon, vous avez montré dans la conférence tout à l'heure que vous étiez loin d'être un conservatiste, si vous pouviez nous dire sur quel point votre avis est différent ou pas différent du point de vue de l'Église, ou plus spécialement du pape, par rapport à la science en général.
Je suis un fils de l'Église. Je veux dire, j'apprends à l'intérieur d'elle à voir et à avoir un juste rapport au monde. Donc, au fond, ce que l'Église dit, a toujours dit, c'est l'enseignement Jean-Paul II qui a voulu qu'on regarde de très très près toutes ces questions de Galilée, etc. En disant, si l'Église s'est fourvoyée, qu'elle le dise et qu'elle le reconnaisse. Donc, il y a pas mal d'endroits où on s'est fourvoyé parce qu'on est des hommes comme les autres. Et il y a les dogmes, ça c'est intouchable. C'est-à-dire qu'il y a sept sacrements, qu'il y a trois personnes dans la Sainte Trinité, ça traversera tous les siècles. Mais dans les positions à tel et tel moment, on a une position par rapport à un gouvernant, par rapport à un scientifique, par rapport à ci ou ça, qui était injuste. Donc, on a voulu faire une opération de vérité sur ce sujet. Pourquoi ? Parce que à l'intérieur du rapport de l'Église, à l'intérieur de la science, vous avez des scientifiques qui sont profondément chrétiens, comme par exemple Louis Pasteur, et puis profondément anti-chrétiens, comme Auguste Comte, après ils ont le droit. Vous voyez. Mais nous, quand quelqu'un découvre quelque chose et qui est un véritable progrès, une trouvaille, comme on dit, oh, là, c'était quelque chose qui était inimaginable. Maintenant, on a la possibilité de. Avec ceci, on a la possibilité de. Et vous continuez la phrase. De faire des merveilles ou de provoquer des désastres. C'est l'exemple que je citais avec celui-là qui a inventé l'ammoniaque et donc qui a permis de faire des quantités de guérison. Là aussi, je l'ai trouvé chez Astelkan. Et qui, quelques temps plus tard, a trouvé le cyclon B et qui a permis de gazer tout le monde à Auschwitz. Donc, quand un scientifique trouve quelque chose, ça c'est mon principe de base. Quand la science progresse, je suis heureux, mais la responsabilité de l'homme grandit aussi. Alors, au fond, je suis rempli d'espérance. Et je pense que les hommes sont taillés pour la course et qu'ils sont assez grands pour ne pas se faire avoir par le progrès. Malheureusement, les faits ne donnent pas toujours raison. Et avec certains progrès, en fait, on a fait des véritables horreurs, quoi. Donc, voilà. Alors, c'est pas seulement dû au libéralisme. Alors là aussi, il est un peu injuste, Axel, quand même, parce qu'il dit toute la faute est dans le libéralisme. Et j'ai dit dans le collectivisme. Ouais. Quand on nous a fait croire que le Messie, c'était le prolétariat et que Staline a tué 80 millions de personnes, c'est pas vraiment un succès. Quand Hitler, en refusant le peuple élu et la race juive qui avait été choisie par Dieu, ce qu'il mettait dans des races folles et qu'il a dit la véritable race choisie, c'est la race aryenne, ça c'était aussi le détournement d'un concept religieux dans une donnée politique et ça a engendré des désastres. Alors, tous les jeunes Allemands de l'époque pensaient que c'était un progrès. Moi pas, quoi. Et eux non plus maintenant, ils en ont furieusement honte. Donc, évitons-nous les hontes du futur en ne manquant pas de vigilance aujourd'hui. Voyez. Et donc, il y a des choses du libéralisme aujourd'hui, la course au plus et au toujours plus, qu'il faut savoir dénoncer, ça Axel Kahn le fait très bien, avec beaucoup de vigueur, pour dire, en fait, attention, vous conduisez à une catastrophe. Par exemple, du point de vue de l'écologie, ils l'ont fait. Voyez. Ce qui me paraît assez curieux pour moi dans les débats sur la bioéthique, c'est pas venu dans notre débat aujourd'hui, c'est qu'on est très sévère du point de vue de l'écologie, avec les arbres, avec l'air, avec le CO2, etc. Et je dis, et alors l'homme ? Vous n'allez pas faire une écologie de l'homme ? L'homme compte quand même autant que les chimpanzés ou les arbres. Donc il est évident que si on a une pensée écologique, que j'aime beaucoup, vous avez une maîtrise sur la création, mais ça ne vous donne pas le droit de faire n'importe quoi, parce que premièrement, vous pouvez tout bousiller, deuxièmement, vous êtes des voleurs par rapport à la génération future qui n'aura pas la joie de profiter de la création, comme vous l'avez eu si les rivières sont des égouts, des poubelles, les mers, etc., etc. Donc, ce que vous dites à propos de l'eau, à propos de l'arbre, à propos de l'air, il me semble que vous pourriez le dire aussi à propos de l'homme. C'est une évidence, voyons. Donc, je ne vois pas une écologie qui n'aille pas avec une écologie de l'homme. c'est tellement évident que je ne vois pas comment on pourrait y échapper. Alors, le problème de la France, si vous voulez, c'est que ce n'est pas le même ministère. Comme a dit une fois un ministre à qui j'expliquais ça. Elle me dit, oui, mais nous, on est le ministère de l'écologie et là, c'est le ministère de la santé. Je dis, ben, moi, je ne suis pas découpé en ministère. Quoi. Non, je suis un Français. Et un Français, ben, il a envie d'avoir un rapport ben, à son propre corps, à la nature et à la société, qui soit avec une pensée harmonieuse, bien entendu. Or là, actuellement, dans la société, on a une très forte distorsion. Mais les gens, petit à petit, s'en aperçoivent.
Une dernière question. Nous entrons aujourd'hui, ce dimanche 27 novembre, premier dimanche de l'Avent, dans une nouvelle année pour les chrétiens. Très brièvement, pourriez-vous nous rappeler ce que cela signifie pour les chrétiens et ce que cela peut signifier pour ceux qui ne le sont pas ?
Écoutez, avec plaisir. Donc, avant, ça ne s'écrit pas comme le mot avant, c'est écrit A-V-E-N-T. C'est Adventum en latin, c'est-à-dire la venue. Donc, là, au fond, ça peut se résumer en un seul mot qui est l'espérance. C'est-à-dire, on dit aux gens, n'ayez pas peur, celui qui est votre créateur, donc la foi des juifs, des chrétiens, des musulmans aussi d'ailleurs, c'est je crois en un seul Dieu, il est créateur du ciel et de la terre, il ne va pas nous laisser tomber. Donc on est sûr que quoi qu'il en soit des difficultés que nous traversions, et Dieu sait s'il y en a, lui, il va faire quelque chose et il vient chez nous. Donc cet adventum, c'est de dire, nous devons être vigilants pour préparer sa venue. Il va venir, il vient chaque jour et il reviendra à la fin des temps. C'est un des mots majeurs du credo, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Et moi, j'attends la vie éternelle et la vie du monde à venir. Donc, le maître mot, c'est l'espérance.
Merci beaucoup, Monseigneur, d'avoir bien voulu répondre à nos questions.
Merci.
Et bonne année.
Donc. Alors voilà, oui, c'est gentil.